Mes chers amis, il a été demandé dans la prière que Dieu bénisse la lecture de sa parole, puis l'exhortation que nous pourrons en tirer. Alors nous allons commencer par lire quelques versets dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5e. Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et je souligne cette parole, Adam et Ève se croyaient vêtus. Et pourtant, ils étaient nus quand le Seigneur les a trouvés. Et il ne faudrait pas que parmi nous, on s'illusionne au sujet de notre salut. Il faut savoir si nous sommes vêtus et si à sa venue, le Seigneur ne nous trouvera pas nus. Continuons notre lecture. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et pour bien montrer que déjà dans l'Ancien Testament, il était question de ces vérités. Nous lisons dans le chapitre 12 de Daniel cette parole. Verset 2e du chapitre 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Et un éclairage bien particulier de la part du Seigneur dans l'évangile de Jean, au chapitre 5e. Le Seigneur disait ceci au verset 24e. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous savons que Dieu veut bénir sa parole qui est la vérité et que par son esprit, il la guidera dans chacun de nos cœurs. Voyez-vous, en priant pour cette soirée du 15 juin 1994, j'ai été poussé à attirer votre attention sur trois grands faits qui concernent tous les hommes, croyants ou incroyants. Je ne connais pas vos cœurs, je ne sais pas si tous ici sont des croyants ou s'il y a parmi nous un incroyant ou plusieurs. Ces grands faits qui nous concernent tous, le premier, c'est le péché. Le second, c'est la mort, et le troisième, c'est le jugement. Nous verrons tout d'abord quelle est l'attitude du croyant en face de ces trois faits qu'il ne conteste pas. Un croyant ne conteste pas le péché, pour la bonne raison que le Saint-Esprit l'a un jour convaincu de péché, lui a manifesté qu'il n'était pas un pécheur en peinture, mais que vraiment il était pécheur, transgresseur de la loi divine, coupable et perdu. Un croyant ne conteste pas le péché. Ayant la foi, il croit simplement ce que dit la parole. Et la parole nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun croyant ne conteste le péché. Au contraire, se reconnaissant pécheur, il a cherché un moyen de salut. Et ce moyen de salut lui a été présenté par l'Évangile, dans la personne du Seigneur Jésus, qui n'est pas venu justement pour des justes, mais pour des pécheurs. De sorte que la question du péché pour le croyant, elle est réglée. Elle est réglée définitivement. Il n'est plus troublé par le péché ou par le fait que même depuis sa conversion, il constate par l'œuvre du Saint-Esprit que le péché est encore dans la chair, dans sa chair. Mais, suivant les Écritures, eh bien, il se considère lui-même comme mort au péché et vivant pour Dieu. De sorte que, quand il envisage la mort, le deuxième fait dont j'ai à cœur de souligner l'importance, il n'a pas peur de la mort. Tandis que dans le monde, ceux qui ne connaissent pas la parole, durant toute leur vie, il est dit qu'ils sont tenus sous la servitude à cause de la crainte de la mort. À cause de la crainte de la mort, on est tenu sous la servitude. On essaye d'oublier la mort, mais c'est une chose qui est tellement vécue, si j'ose dire ainsi, qu'on ne peut pas contester. Un jour, il faut mourir. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'heure et c'est le jour. Mais pour le croyant, il n'y a pas de crainte de la mort. Quand il meurt, il sait où il va. Nous avons lu dans ce merveilleux chapitre 5 de la deuxième aux Corinthiens qu'un jour, nous devons déposer notre tente, notre corps, le corps que nous habitons, est comparé à une tente, et un jour, nous allons quitter cette tente. Est-ce que cela nous angoisse? Non, parce que nous savons que nous avons un édifice auprès de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. Nous savons que notre corps qui est poussière retournera à la poussière, mais nous n'avons aucune angoisse à cet égard, car notre esprit s'en ira auprès de Dieu. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais, mes amis, quand on entend quelquefois des personnes parler de la mort d'un de leurs bien-aimés, qui est mort dans la foi, on les entend nous dire qu'ils sont entrés dans la gloire. Bien non, ils ne sont pas encore entrés dans la gloire. Ils ne savent pas ce que c'est que la gloire. Car pour entrer vraiment dans la gloire, il faut attendre le retour du Seigneur. À ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui demeurons, nous serons changés, et nous revêtirons ainsi un corps de gloire, semblable à celui du Christ glorifié. De sorte que l'avantage qui existe pour celui qui est déjà hors de cette tente, qui a quitté son corps, eh bien, c'est d'être auprès du Seigneur. C'est de jouir déjà de sa présence. C'est de pouvoir le contempler loin de ses souffrances et du péché qui règne dans ce monde. Nos bien-aimés endormis dans la foi, jouissent de la présence du Seigneur. C'est ce que Paul nous dit, être auprès du Christ, c'est de beaucoup meilleur qu'être dans ses tentes, d'être dans ce corps de souffrance. De sorte que, malgré les souffrances que nous endurons, l'apôtre nous montre que nous ne désirons pas mourir, ce n'est pas la mort que nous attendons, mais nous attendons le retour du Seigneur, nous attendons sa venue, nous attendons ce moment où les vivants, en un instant, en un clin d'œil, seront transformés et auront revêtu ce corps immortel. Pour s'en aller auprès du Seigneur dans la gloire, avec un corps donc glorifié, semblable à celui du Christ glorifié dans le ciel. Maintenant, le troisième fait qui ne trouble pas le chrétien, donc le péché ne nous trouble plus parce que Jésus l'a porté, l'a expié et il est effacé. Et aux yeux de Dieu, si nous croyons la parole, Dieu nous dit qu'il ne s'en souvient plus. Le péché ne remonte pas dans sa mémoire, de sorte que nous sommes dans la joie. Nous n'avons plus cet esprit de culpabilité, nous connaissons l'infini pardon de Dieu. Nous ne craignons pas la mort parce que nous savons que même si nous devons mourir, nous ressusciterons et que le Seigneur nous va préparer un corps de gloire. Et enfin, au sujet du jugement, nous savons que nous ne serons pas jugés. Il est réservé aux hommes, ça nous le savons, de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Mais nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Cependant, et c'est ce texte que je voudrais souligner, il est bien clair que nous comparaîtrons tous les croyants devant le tribunal de Christ et que là sera examinée toute notre vie, sera mise dans une pleine lumière. Nous ne serons pas jugés au tribunal de Christ quant à nos âmes, nous paraîtrons devant le tribunal de Christ dans un corps glorifié, dans un corps de résurrection et dans un corps glorifié. Mais cependant, le Seigneur manifestera s'il a pu donner son approbation sur ce qu'a été notre vie depuis notre conversion. De sorte que le salut, mes amis, c'est pas juste être sauvé et ne pas aller en enfer. Le salut, c'est quelque chose de quotidien. Le salut vous prend en Jésus-Christ et vous fait vivre pour le Seigneur. Nous sommes considérés comme mort avec Christ, mort au péché, mort dans la mort de Christ, et vivant maintenant pour Dieu de sa vie de résurrection. Mais il n'y a pas de doute que quand nous savons cela, que toute notre vie sera passée devant nos yeux et devant les yeux de tous, de nos amis, de nos frères, qui peut-être ignorent certaines choses du fond de nos cœurs, car on ne peut pas tromper Dieu, on peut tromper ses frères, eh bien tout cela sera manifesté et le Seigneur devra dire « J'avais une couronne pour toi, Mais, regarde, et tout le monde sera d'accord que cette couronne ne me revient pas. Et le Seigneur la donnera à un croyant qui a compris qu'il n'était pas sauvé pour éviter l'enfer, mais qu'il était sauvé pour être un témoin du Seigneur sur cette terre. Et cela, c'est un principe que nous devons reconnaître. Il n'y a pas de crainte concernant le jugement de nos âmes, mais nous serons jugés quant à nos œuvres. Parce que s'il n'y a pas ces œuvres que le Seigneur a préparées pour que nous les pratiquions, s'il n'y a pas eu cette pratique quotidienne, fidèle, des bonnes œuvres que le Seigneur mettait sur notre chemin dans les petits détails de nos journées, eh bien, le Seigneur nous le montrera et nous serons d'accord avec lui. C'est cela, quand nous connaîtrons nous-mêmes, comme nous avons été connus, nous donnerons raison à Dieu. Nous serons d'accord avec lui et nous acclamerons celui ou celle qui passera bien avant nous et qui recevra la couronne. L'apôtre Paul n'avait aucun doute au sujet de cette couronne. Il dit que pour lui, dans le chapitre 4 de la deuxième épître à Timothée, il dit qu'il sait que le Seigneur lui donnera la couronne de justice qu'il a réservée pour ceux qu'il aime et qui aiment son apparition. Maintenant, je vous dirai deux mots sur l'attitude, alors, qu'a l'incrédule en face du péché, en face de la mort et en face du jugement. Son attitude, s'il ne croit pas, c'est d'abord de nier le péché. Aujourd'hui, le péché mort. Ça n'existe pas, et quand vous parlez de péché à des âmes que vous rencontrez, eh bien, vous sentez tout de suite une opposition. Le péché, en fait, c'est une vieille histoire, une invention des prêtres et des pasteurs qui ont voulu dominer sur nos âmes, nous faire peur, nous culpabiliser. On nous dit bien souvent que le péché n'existe pas. Parce que, voyez-vous, il faut vraiment le Saint-Esprit pour convaincre une âme de péché, pour la convaincre et qu'elle est mauvaise, qu'elle est perdue. On nous enseigne que nous avons un bon fond, que ce n'est pas grave, même il y a une petite réclame qui passe, paraît-il, à la radio, qui dit « Avant, on nous disait que certains péchés nous conduisaient en enfer, mais maintenant, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. La paresse, la gourmandise, tout cela ne sont que des péchés mignons et ne nous priveront pas du tout de la béatitude éternelle. » Donc, le péché, pour beaucoup, ça n'existe pas. Pendant longtemps, hein. Mais dès que la personne arrive proche de la mort, parce que tôt ou tard, on y pense à la mort, et tôt ou tard, elle s'impose à nous. C'est peut-être le médecin qui nous déclare que nos jours sont comptés, ou enfin, la maladie faisant son effet en nous, nous sommes bien obligés de penser à la mort. Et alors, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Des gens qui ont toujours nié qu'ils étaient pécheurs, tout à coup ils appellent le prêtre ou le pasteur et ils ont besoin de faire une espèce de confession générale. Ils ont la conviction de péché au moment de la mort. Parce qu'à ce moment-là, ils ont bien cette conviction que c'est pas possible que tout soit fini par la mort. Car non, tout n'est pas fini par la mort. Il y a deux résurrections. Il y a une résurrection pour la vie et il y a une résurrection pour la mort. Les incrédules aussi seront ressuscités. Et ils auront un corps de résurrection, mais pas un corps de gloire. Avec ce corps de résurrection, où iront-ils s'ils n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur personnel? Ils iront nulle autre part que dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. Si pour le croyant, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, et si nous pourrons subsister devant le tribunal de Christ, c'est parce que nous serons dans des corps glorifiés qui pourront tout supporter et qui seront pleinement d'accord avec le Seigneur. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Mais pour l'incrédule, eh bien, qui a peut-être pensé, ben, la mort, c'est fini, quand j'expirerai, tout est fini. Non, après la mort, suit le jugement. Et cette résurrection aura lieu, pas au même moment, au moment de la résurrection des justes. Vous voyez bien qu'il est dit, Jésus dit qu'il y a une résurrection pour la vie et une résurrection pour le jugement. C'est dans des corps de résurrection que les incrédules paraîtront, après leur mort, devant le grand trône blanc, car le Seigneur Jésus est juge des vivants et des morts. Et je lis un dernier passage dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, où il est dit ceci, au verset 10 du chapitre 20, après la destruction de la dernière révolte à la fin du règne, et le diable, verset 10, qui séduisait les nations, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Tous ceux qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection pour revêtir un corps de gloire et s'en aller vers le Seigneur, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ah, ils ont toujours parlé d'œuvres. Eh bien, ils seront jugés selon leurs œuvres. Comme aussi les croyants seront jugés selon leurs œuvres, hein, mais dans un autre moment au tribunal de Christ, non pas pour être condamnés, mais pour être manifestés. Il n'y aura pas d'hypocrite au ciel. Et tout le monde sera d'accord avec l'appréciation du Seigneur. Nous serons enfin d'accord avec lui. Fini l'hypocrisie. Moi, je peux vous apparaître sous un certain jour. Mais ce que j'ai compris et ce que je m'efforce maintenant de plus en plus à vivre, c'est de vivre dans la lumière, vivre aujourd'hui dans la lumière, qui va me manifester au tribunal du Christ. Alors, nous sommes sans crainte, parce que quand on vit dans cette lumière, qu'est-ce qui nous arrive? On se juge continuellement. On se juge quotidiennement sur tout ce que le Saint-Esprit fait apparaître dans nos vies qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Et alors, quand on s'en juge, eh bien, nous savons que le sang du Christ nous a purifiés de tout péché. Et l'on se tient pour mort au péché quand la tentation vient. Seigneur, puisque tu dis que je suis mort, c'est pas mon expérience. J'éprouve au contraire que je suis bien vivant, mais mon expérience n'est pas la foi. Je crois plutôt ta parole que mon expérience. Vous n'allez pas baser votre foi sur votre expérience parce que vous seriez toujours dans le doute et dans la crainte. Vous basez votre foi sur ce que vous dit la parole. Si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Dieu nous considère comme mort au péché, et c'est cela qui est vrai, et j'ai à me mettre d'accord avec Dieu sur cette question-là. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas troublés par ces trois grands faits, et qui, évidemment, pour l'incrédule, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, si nous savons cela, je retourne au dernier texte que nous avons lu en premier, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans le corps. Le chrétien sera examiné et recevra la récompense ou le blâme. L'incrédule, pour lui, c'est quelque chose de définitif. Et pour pouvoir subir une éternité de souffrance, il lui faudra un corps de résurrection. Les morts seront ressuscités, et c'est dans ce corps de résurrection qu'ils endureront cet éloignement éternel de Dieu, de la bénédiction. Alors, quand on sait cela, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Connaissant, verset 11 du chapitre 5, la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous avons une conviction que si nous acceptons le Seigneur, le péché, la mort, le jugement, c'est définitivement passé pour nous. Mais ce que nous savons, c'est que la personne qui n'a pas accepté ou qui n'accepte pas le Seigneur, eh bien, subira le salaire du péché qui est la mort, et après la mort, suit le jugement et la parole de Dieu s'accomplira pour lui. Alors, quand on sait cela, eh bien, on a un zèle et un amour. Verset 14. Car l'amour du Christ nous presse. Voyez-vous, c'est pas notre amour qui va nous permettre d'évangéliser. Ne croyez pas cela. Mais c'est l'amour du Christ en nous. L'amour du Christ qui nous a sauvés. Il nous presse. Ce n'est pas notre sentiment de reconnaissance, c'est l'amour du Christ. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il n'est plus question de notre zèle, il est question de son amour. Eh bien, que son amour nous remplisse et que ce soit vraiment par cet amour que nous puissions aller auprès des âmes et leur dire « Soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu notre Père, à la fin de cette soirée, nous voulons te demander que nous puissions lire et relire ta parole et que nous ne soyons pas simplement des sauvés qui n'iront pas en enfer, mais des sauvés dont tu pourras approuver devant les saints anges, devant les principautés qui sont dans les lieux célestes, que tu pourras approuver pleinement et auxquels tu pourras donner la couronne que tu as préparée pour ceux qui ont accepté ton salut et qui, sachant de quoi ils sont sauvés, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, et que nous puissions sortir de ce lieu avec des convictions, non pas avec les pensées qui nous viendraient d'un homme, mais avec les convictions que nous donne ta parole, qui est la vérité. Et qu'ainsi, contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, en attendant qu'il vienne, nous nous trouvions transformés en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen.